au moment où je me lève, je n'ai pas envie de vivre, je n'ai pas envie d'affronter cette réalité, je veux rester dans mon sommeil pour ne pas avoir à l'affronter.
Pour oublier en fait ce que tu vis.
Voilà.
Hello tout le monde, bienvenue dans Féminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou. Alors vous le savez, d'habitude je suis avec Anouk, on fait nos podcasts sur les femmes, la féminité, pour vous booster, vous élever. Et on a aussi des hors-séries. Et dans les hors-séries, bah, on a des invités d'exception que j'aime beaucoup, que j'ai découvert notamment pour aujourd'hui notre invité il y a quelques années, dans une conférence qui s'appelle « Vivez vos rêves ». Donc si vous êtes au début de votre développement personnel, si vous êtes en plein milieu de votre développement personnel, où vous avez envie d'ancrer toutes ces belles choses pour enfin vivre la vie que vous voulez, il suffit d'aller acheter ce livre qui s'appelle « Vivez vos rêves » d'Abraham de Bettencourt qui est avec nous aujourd'hui. Hello.
Hello Chloé.
Voilà, je t'ai fait une petite intro bien sympathique.
Oui, tout à fait. Tu fais ça bien.
Merci. Bon, en gros, on va déjà directement rentrer dans le bain. Moi, je t'ai découverte il y a quelques années lors d'une conférence où on m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir ce mec. Il fait une conférence sur comment vivre ses rêves. Et je t'avais vu du côté de Uccle, je pense. Est-ce okay. que le centre culturel d'Uccle?
Oui, je l'ai fait deux fois.
Moi, de base, quand je fais des hors-séries, on parle évidemment de qui tu es maintenant. Tu es agent immobilier, tu es directeur de d'une des plus grosses agences de Bruxelles. Tu as créé des conférences, tu as écrit un livre.
Oui.
Mais moi, je veux aller voir justement, avant que tu sois tout ça, c'était qui étais-tu?
Ok, d'accord.
Qui étais-tu? Parce que selon moi, quand tu veux, j'espère en tout cas motiver, inspirer des gens, ben, ça se fait surtout par les moments de down, les moments avant en fait, d'être cette personne-là, pour que bah, tous ceux qui nous regardent et qui ont peut-être vécu la même chose que toi, qui viennent peut-être d'un background similaire, puissent se dire, bah, en fait, on peut y arriver et on n'est pas obligé de rester au point de départ. On peut aller vers quelque chose de bien. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer, et surtout aux auditeurs, parce que moi j'ai eu la chance d'aller regarder 2-3 interviews, mais de nous expliquer d'où tu viens en fait, qui tu es, d'où tu viens?
Je suis métisse. Donc mon père est sénégalais et ma mère est portugaise, des îles des Açores.
Ok, sympa.
Voilà. Donc mes parents se sont rencontrés à Bruxelles. Cupidon a décroché une flèche assez improbable parce que mes parents viennent de deux univers très différents l'un et l'autre. Donc mon père, lui, était, parce que, donc il est décédé, musicien, donc il jouait de la kora, qui est un instrument traditionnel sénégalais. Et donc voilà. Et ma mère, elle, est donc portugaise des îles des Açores, et elle vient d'une famille d'aristocrates portugais. Donc voilà, deux mondes très très différents. Et donc ils se sont rencontrés à Bruxelles. Et voilà. Donc j'ai pas connu mon père. Mon père, je crois que quand j'avais 2 semaines à peine quand il est parti. Et donc j'ai grandi dans le centre-ville, rue Rempart des Moines pour être précis. Donc j'ai grandi dans rue Rempart des Moines, quartier Chicago, à Naissance. Et j'allais à l'école quand j'étais petit en primaire à Saint-Roch, qui est avenue de l'Héliport. Pour les Bruxellois qui
connaissent. Donc c'est Isère, quartier Isère en fait. Du coup aussi l'école, vu que tu étais juste à côté.
Ouais.
Pour ceux qui, parce qu'on a aussi beaucoup d'auditeurs français.
Oui.
On va revenir sur ta maman. Oui. On va revenir sur ton papa.
D'accord.
Mais juste pour ancrer déjà où tu as grandi, ceux qui sont pas belges, qui sont pas bruxellois même, j'ai envie de te dire.
Oui.
Quartier Annecens pour eux, c'est pas assez explicite. Okay. Comment tu peux le comparer?
On pourrait, pour un peu caricaturer, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent du Bronx. Voilà, donc aujourd'hui, le centre-ville va beaucoup mieux. Mais ouais. quand j'étais gamin, c'était vraiment le ghetto, quoi. Je sais pas comment le dire autrement.
C'était la zone. En fait, c'est une banlieue, ça l'est moins, comme tu dis peut-être maintenant, mais c'est le banlieue ultra chaude, en fait, à l'époque.
Oui, j'ai vu des gens... j'ai vu des gens se faire poignarder, j'ai vu des choses très violentes quand j'étais enfant.
On va revenir sur parcours familial, ouais. Avant de revenir sur ce que tu as vécu en tant qu'enfant, comment tu l'as vécu. Il y a plein de sujets que j'avais envie d'aborder avec toi,
okay.
Parce que ça m'intéresse de ouf, ouais. Et je suis sûre que ça va intéresser aussi les personnes qui nous écoutent. Abraham de Bettencourt, du coup, tu me dis aristocratie, ouais. Portugaise.
Oui.
Donc, ça, c'est le nom de ta maman.
Tout à fait.
Comment tu... Quand tes parents se rencontrent, ton papa est musicien, pas du tout du même milieu que ta maman.
Non.
Comment ça se passe, le schéma Parce que moi, par exemple, qui ai des parents aussi qui n'étaient pas du tout du même milieu, ça a été très compliqué dans la famille pour l'acceptation de l'un et de l'autre. Est-ce que chez toi, comment ça s'est passé?
Ah, eh bien, ma mère a été reniée. Voilà.
Par toute sa famille.
Oui, alors, bon, donc ça, c'est des choses très, très personnelles. Mais,
je t'avais dit qu'on irait loin, je t'ai prévenu. Hein.
Ok, mais donc, en gros, donc, mon père, lui, en fait, vient d'une famille. Donc, mon grand-père paternel était quelqu'un de très connu, en fait. On l'appelait le roi de la cora. Donc, c'était quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier, en fait, pour donner des concerts un peu partout dans le monde. Et en fait, mon père donc, était ce qu'on appelle au Sénégal un griot. Donc, c'est-à-dire que la tradition et l'histoire est racontée à travers les chants. Et mon grand-père était vraiment une sommité sur toute l'Afrique de l'Ouest. On l'appelait le roi de la Kora. Donc voilà, il passait à la télévision. Enfin, c'était quelqu'un de très connu. Il avait plusieurs femmes. Mon père avait, je sais pas, une trentaine de frères et sœurs, si pas plus. Et donc, mon père était censé être l'héritier, le successeur de mon grand-père.
Ok.
Alors, pourquoi j'explique ça, c'est par rapport à l'acceptation, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet du côté de mon père. Donc, mon père, donc, lui, est expulsé de Belgique pour des raisons de trafic de drogue et de choses qui ne sont pas très bien passées le concernant. Parce que bon, l'histoire, en gros, c'est quoi ? Il est venu une première fois, il a fait une tournée en Europe et ça a très bien marché.
Ok.
Quand il est retourné au pays, comme c'est des musulmans animistes, il faut rentrer, offrir des cadeaux à toute la famille, etc. Et donc, c'était un succès, donc il l'a fait la première fois. Et la deuxième fois où il est venu, ça s'est moins bien passé. Et en fait, ça s'est tellement moins bien passé qu'il a eu honte de retourner au pays. Parce qu'il ne pouvait pas revenir avec...
avec la gloire de l'Europe.
La gloire, quoi, du succès de, ouais, l'Europe. Et d'après ma mère, après évidemment ça reste à vérifier, mais il s'est un petit peu perdu et il s'est mis notamment à faire certaines choses, trafic de drogue et autres. Il a aussi été accusé d'avoir de meurtres, enfin des choses avec des gangs, des machins, enfin bon bref, je sais pas exactement ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans. Tout ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il a été interpellé et rapatrié au Sénégal quand j'étais assez jeune. Et donc, pour la petite histoire, ce qui se passe, c'est que donc dans cette famille qui était quand même une famille d'une certaine renommée au Sénégal, pour eux, lorsqu'un père n'est pas en capacité d'éduquer son fils, ça ne peut pas être une femme qui s'en occupe. Il faut que ce soit un autre homme de la famille qui l'éduque.
Oui, voilà. Ok.
Et donc, ma mère avait une peur bleue qu'on me kidnappe. Et donc, elle a tout fait pour couper tous les ponts, pour pas qu'on puisse la retrouver, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'était la relation avec la famille paternelle. Et la relation avec la famille maternelle, c'est ma mère, en fait, elle a été purement et simplement reniée, quoi. Donc ça c'était au départ. Après, ça, les choses ont changé, mais au départ, c'était. Ce que je vais dire est un petit peu violent, mais il faut imaginer que ma grand-mère, en particulier mon grand-père, peut-être un peu moins, mais ma grand-mère. Elle a vécu du temps de la dictature et elle a fait partie des grandes familles aristocratiques,
okay,
du temps des colonies, etc. Et donc, dans son esprit, il y avait les aristocrates, ensuite il y avait le peuple et puis après il y avait les nègres et les esclaves, quoi.
Oui,
et
c'est
donc,
ça. Ah, oui,
pour,
okay,
elle, ce que sa fille fasse un enfant avec un noir musulman, mais c'était...
Ah, c'est la honte, en fait.
Ah non, c'était l'affront absolu, c'était la chose... Enfin, c'était inimaginable pour elle. Donc, ma mère a été reniée. Et donc, je pense, mais donc ça, c'est de l'interprétation, que ma grand-mère, en fait, a été un petit peu victime d'une pression sociale. C'est-à-dire que les gens ont été la voir en lui disant « Ah, tiens, où est ta fille ?» etc. Elle a dit à un moment donné à ma mère de revenir aux Açores. Mais... Et c'est de nouveau un petit peu violent, mais elle lui a dit, OK, mais
mais tu dis que tu l'as adoptée. Donc voilà.
Mais c'est violent.
Ouais, ouais. Et donc ma mère a dit, bah non, c'est mon fils. Si je reviens, il est hors de question que je dise que je l'ai adopté. Et donc voilà. Et puis ma grand-mère, je pense, à cause aussi un peu de cette pression sociale, parce que c'est des petits milieux, etc., bah, était un peu contrainte d'accepter le fait que ma mère revienne en précisant que j'étais effectivement son fils. Aux Açores, encore plus qu'au Portugal, c'est dans les îles, c'est reculé, donc cette oui. distinction entre les classes est beaucoup plus forte. Et donc voilà, j'avais des tantes qui ne voulaient pas que je joue avec mes cousins, voilà, c'était compliqué. Et en plus, pour moi aussi, c'était assez un choc psychologique, parce que donc, lorsque j'étais enfant, j'étais quartier Chicago à l'Essène, donc comme je l'ai dit, un peu le Bronx bruxellois. Et en fait, quand je suis arrivé pour la première fois aux Açores, je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, on allait chercher mes vêtements au petit rien, hein, moi, quand j'étais petit, voilà. Donc voilà, on était vraiment assez démunis. Et puis j'arrive chez mes grands-parents et ma grand-mère avait... parce qu'elle est décédée, mais elle avait plusieurs propriétés. Mais donc, certaines de ses propriétés faisaient... La façade faisait 1 kilomètre, quoi. Donc, c'était un truc de malade mental, avec, je sais pas moi, 6 salons, 15 chambres, enfin, voilà, personnel, chauffeur, tout le bas. Enfin, les trucs vraiment un peu dans, comme on peut voir dans les films.
Oui, c'est Rich. Ça.
Et donc, moi, je suis passé de quartier Chicago à Naissance à me retrouver... là-dedans, en me disant, voilà, qu'est-ce qui se passe. Souvent, les gens me disent, OK, tiens, tu en parles avec une certaine légèreté, mais en fait, moi, vu que mon point de départ, c'était quartier Chicago and Essence, et que j'avais ça, bah, en fait, c'était chouette, quoi. C'est un peu comme dans
c'est
un
film. C'est une grande plaine de jeu, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis cette non-acceptation de la part de mes tantes qui ne voulaient pas que je joue avec mes cousins, tout ça, je ne le savais pas, donc voilà, ça ne m'était pas dit.
Tu ne le ressentais pas?
Ouais, pas plus que ça. Bon, okay. Après, ma mère m'a raconté que, bon, parfois, il y avait eu quelques scènes où effectivement, voilà, c'était pas cool. Mais en fait, c'est le truc, c'est comme moi, j'avais rien. Parce que ma mère était seule en Belgique, j'avais pas de famille, j'avais rien du tout, etc. Ben, moi, en fait, c'était que du plus.
Oui.
Et donc, je me disais pas, et j'avais pas de point de repère. En me disant, ça aurait été mieux si j'avais eu ci ou ça. Non, j'avais rien. Donc, tout ce qui était en plus, pour moi, était du mieux. Voilà.
Comment, toi, tu gères ce truc de... Tout d'un coup, t'as une énorme salle de jeu, façon de parler. Tu vois, il y a de l'argent. Tu vas dans un monde... En fait, tu t'es balancé entre deux mondes tout le temps.
Oui, oui.
Parce qu'après, tu reviens à Neusense,
ouais.
Dans ton Bronx.
Oui, oui.
Alors que 2 semaines avant, t'es dans ton palace de folie. Ouais. Comment tu fais psychologiquement pour chaque fois t'adapter?
Ça va, honnêtement, c'était pas... Après, le truc, évidemment, c'est que mes copains à l'école croyaient que j'étais un gros mytho.
Oui, mais c'est ça.
Parce que bon, quand j'expliquais ça, c'était... Ouais, ils pensaient que je racontais n'importe quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mais sinon, écoute, c'était plutôt une chance. Moi, je le voyais comme ça.
Moi, la première fois que je t'ai rencontré, je te le dis très honnêtement, jamais de ma vie, j'aurais pu penser... Ouais. Que ton parcours, c'est ça. Tu sais, il y a des gens, tu vas les voir, tu peux, que ce soit par rapport à un comportement, par rapport à une manière de s'exprimer, par rapport à ça, où tu peux te dire, OK, il y a des cohérences avec l'endroit d'où il vient ou une niche où tu peux vite catégoriser.
Oui.
Toi, déjà, ton prénom et ton nom de famille ne t'aident pas à se dire que... Toi, vraiment, on se dit, oui, aristocratie.
Oui.
Clairement.
Oui.
Et il y a eu tout ce basculement où toi, t'es passé par des phases très compliquées. Dont on va parler. Comment, en tant qu'enfant, tu te construis, surtout que toi, tu grandis, t'as pas de père. Du coup, ton identité sénégalaise, comment tu l'as construit, en fait? Est-ce que t'as eu, à un moment donné, aussi une quête, une crise identitaire, en disant, mais en fait, qui suis-je, tu vois?
Oui, oui, bien sûr, je l'ai eu pour plusieurs aspects. Bon, d'abord, il y a la question religieuse, puisque donc, mon père, donc, sénégalais musulman, ma mère, catholique chrétienne, et par ailleurs, avec au niveau de mon arrière-arrière-grand-père, un pendant juif. Donc, voilà. Donc, avec un prénom comme Abraham, bon, forcément, je m'interroge sur pourquoi Abraham, etc. Oui. Et machin. Comment est-ce que tu te construis quartier Chicago Essence? C'est chaud, quoi. c'est chaud, il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a de la violence qui commence très jeune.
Bah, quand j'étais à Saint-Roch, voilà, les bagarres. Enfin, oui, parce qu'en fait, on est dans un milieu où il y a de la violence dans les familles aussi. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la violence dans les familles, dans les structures plus. Enfin, dans les milieux plus aisés. Oui. Mais bon, voilà, c'est, je veux dire. Pour mes copains, prendre des coups de ceinture ou avoir des coups à l'ancienne, quoi. Mais je veux dire les Occidentaux. Ma mère a eu ce genre de traitement aussi assez violent. Hein,
oui, alors que c'est une Occidentale.
Ouais, et Aristo. Donc ouais. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est dans leur milieu à eux, alors aussi avec un niveau, je dirais, d'instruction qui est beaucoup plus faible, etc. Mm-hmm. Donc bref, dans la cour de récréation, ça pouvait être parfois très chaud. Les vols, la drogue, les clans, les gangs. Enfin, c'est un grand mot parce que bon, on n'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas la mafia russe, quoi. Mais je veux dire.
Il y a des gangs. Quand même
ouais,
à Bruxelles.
Ouais, il y en a quand même. Ouais. Et, des trucs avec des machettes, des trucs. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose. Et ce qui était très chaud pour moi, c'est qu'en fait, j'avais pas de famille ici. C'est-à-dire que j'avais pas de cousins, j'avais pas de frères. Ben voilà. Et donc.
Ton seul repère, c'est ta mère, en fait, à ce moment-là.
Le seul repère, c'était ma mère. Et puis ma mère, ben voilà, c'est quelqu'un qui. Qui n'a jamais été très, très, très stable elle-même. Donc c'était un peu moi et moi-même, quoi. Et j'ai dû, à un moment donné, créer en moi des digues de protection mm-hmm. pour ne pas laisser sa fragilité affecter ma stabilité intérieure. Voilà. J'ai pas une enfance très heureuse, en fait, pour être très honnête. J'ai mes souvenirs d'enfance, des souvenirs de joie, de gaieté, etc., j'en ai pas eu beaucoup. Et je sais que, enfant, j'ai dû aller voir des psychologues et autres parce que ma mère s'inquiétait de me voir assez apathique, sans vraiment... pas de joie. Mm-hmm. Je pouvais rester un peu comme ça, un peu comme un je veux pas dire un autiste, mais voilà, j'étais un peu
Tu t'es créé vraiment tellement une grosse protection que ça t'a... Est-ce que tu te mettais en isolement? Je veux dire, t'avais à l'école aussi, t'étais comme ça ou pas?
C'était un isolement qui était lié aussi à la situation et, comme je le répète, au fait de ne pas être dans un environnement social
propice.
Ouais, enfin bon, voilà, il y a des gens qui ont des frères, des sœurs, qui ont un cercle familial, qui sont dans une communauté. Voilà, tout ça, j'avais pas. Donc, j'étais fort seul, assez isolé, avec une mère qui était assez souvent dépressive, malade, machin, etc. Donc, assez livré à moi-même. J'ai dû trouver un peu par moi-même des solutions pour me frayer un chemin, pour trouver mon bonheur, mon épanouissement. Et donc, heureusement, il y a les philosophes, il y a les psychologues, il y a moyen à travers la lecture, les conférences, enfin plein de choses, de trouver des moyens d'avancer vers un idéal ou en tout cas vers ce qu'on a envie de pouvoir atteindre comme objectif, qu'il soit professionnel ou privé.
Avant de justement devenir ce que tu es maintenant et dans les professions que tu exerces maintenant, j'avais regardé justement une autre interview que tu avais faite où tu parles du foot.
Ouais.
À quel moment ça prend place dans ta vie, le foot ?
Ah, le foot, j'ai encore de l'asthme. Donc j'ai deux choses, c'est l'eczéma et l'asthme que j'ai eu assez fort. Bon, l'asthme à un tel point que j'ai quand même failli mourir à plusieurs reprises quand j'étais enfant. Et donc ça m'handicapait très fort enfant parce que je ne pouvais pas faire du sport comme tout le monde, etc. Et à l'âge de 10 ans, j'ai été envoyé dans un internat spécialisé pour les personnes atteintes d'asthme et de mucoviscidose. Il se trouve à Dehaene, c'est en Flandre, sur la côte belge. Et donc là-bas, il y avait donc c'était un centre médicalisé, etc., spécialisé pour les personnes comme moi. Et donc là, on travaillait sur, enfin eux, pour aider les enfants. Il y avait le volet médical, donc avec toute une série de traitements médicamenteux. Et puis il y avait le volet sportif. Donc évidemment, on était en plein air, il y avait de l'air iodé, enfin bref. Et alors Le truc, c'est que, bon, c'est un peu technique, mais les asthmatiques, ils ont donc leurs alvéoles. Et dans l'alvéole, en fait, il y a une espèce de petite paroi qui, chez l'asthmatique, au moment où il fait une crise, ça se ferme, en fait. Et donc, le problème d'un asthmatique, c'est que l'air est rentré à l'intérieur, mais qu'il ne ressort pas. Donc souvent, quand on voit un asthmatique, il est comme ça, il fait... Il est comme ça, parce qu'en fait, il n'arrive pas à expulser. Donc il faut lui faire des exercices de respiration, enfin, il faut lui apprendre à faire des exercices de respiration avec des kinés, enfin bref, toute une série de choses. Et dans tout ce travail, il y a le fait de développer les aspects physiques.
Ouais.
Et donc là-dedans, bah, on m'a forcé hein, vraiment à faire de la natation, à faire du sport, et etc., etc. Et il pousse quand même assez fort... Et ce, de façon à augmenter en fait, le volume d'air qu'on peut prendre dans nos poumons.
Ah, ta capacité pulmonaire, en fait.
Exactement.
Okay.
Et donc là, bah, le sport, jusqu'à mes 10 ans, quasi inexistant. Et à partir de mes 10 ans, là, j'ai commencé à en faire beaucoup en étant dans cet internat. Et c'est là que j'ai pris goût au football. Et que voilà, au début, je le faisais de manière, je dirais, récréative, à travers les activités. Et ça me plaisait tellement que j'ai demandé à pouvoir en faire en club. Et puis voilà, et en club, je me débrouillais bien. Bon, après, je pense pas que je serais devenu une superstar parce que je jouais bien, mais j'avais pas non plus un talent de malade. Voilà. Et malheureusement, quand j'ai eu mes 16 ans, bah, j'ai dû arrêter ce rêve qui était de devenir joueur de football parce que j'ai des problèmes aux genoux, que j'ai toujours d'ailleurs.
Ah oui, c'est quelque chose qui est resté vraiment...
Oui, en fait, j'ai eu un épanchement de synovie. Donc la synovie, c'est le liquide qui est un peu comme l'huile dans le genou.
Ah oui, oui.
Et donc on a dû me faire une ponction qui n'a pas été très bien faite. Et donc ça a affecté mon cartilage. Et en fait, le cartilage, une fois que c'est abîmé, c'est quelque chose qui...
C'est irréversible.
Oui, ça ne se régénère pas. Okay. Donc là, j'ai des genoux qui sont très fragiles. Et donc, impossible de refaire du sport à très haut niveau, malheureusement. Quand j'y repense, les années d'internat étaient des belles années et ça a été chouette. Ça a été une expérience humaine très intéressante. Tu es avec tes copains, tu fais tes activités.
Mais c'est ça. En fait, au final, toi, tu as grandi seul avec ta maman. Tu te retrouves dans un internat où là, du coup, en fait, tu as plein... Enfin, des frères et sœurs, j'ai envie de te dire frères et sœurs, mais t'es resté... ça reste... T'as des gens autour de toi tout le temps, ce que t'as pas eu avant.
Exactement.
Est-ce que... T'es resté combien de temps dans l'internat ?
J'ai fait 2 ans, puis je suis revenu à Bruxelles, où j'ai fait première et deuxième secondaire, et puis je suis retourné, et j'ai refait 2 ans.
Ah oui, donc t'as eu vraiment des allers-retours. Et donc, t'as pas vraiment d'ancrage, toi, en fait, à ce moment-là, parce que chaque fois que tu t'ancres un peu quelque part, tu dois rechanger.
Ouais, en effet.
Donc, je me rends compte vraiment que je crois que ça doit être ta force, à mon avis, dans ta vie de tous les jours, c'est ta capacité d'adaptation.
Oui, oui, bah, oui, effectivement. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure de la façon dont je m'exprime, on se doute pas que j'ai pu grandir dans les quartiers, etc. Alors, c'est vrai que quand je suis avec des gens du quartier...
Tu deviens la street revient.
Ma façon de parler n'est pas la même parce que, oui, je retourne dans cette époque... voilà, que j'ai connu et dans cet environnement qui n'est pas le même. Donc oui, et puis j'étais dans des mondes qui étaient très différents, parce que c'est vrai qu'entre les gens du quartier et après, bon, parce que dans la famille de ma mère, donc aristocratique, bah, il y a des gens qui étaient secrétaires d'État, d'autres qui étaient ingénieurs, avocats, enfin voilà, des gens qui occupaient des postes très importants, que ce soit au niveau portugais, voire même au niveau mondial. Donc j'ai côtoyé aussi des gens qui m'ont permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et objectivement, bon, sur le coup, je ne m'en rendais peut-être pas forcément compte, mais je sais que c'est une chance. Je veux dire, l'ouverture d'esprit s'acquiert en grande partie grâce à l'environnement dans lequel on se trouve.
Oui.
Et sur aussi la capacité d'un individu à se dire « je vais être capable de réaliser X ou Y », quand on est dans un milieu où papa, maman, la famille de manière générale est d'un niveau socio-économique ou de responsabilité relativement faible, on est capable de se projeter dans des fonctions plus élevées parce qu'on le voit à la télévision, etc. Mais c'est moins quelque chose qu'on arrive à concevoir que quand on a des proches qui ont ce type de fonction.
Oui.
Et donc on se dit, mais en fait, j'ai une légitimité à l'atteindre, c'est faisable, je fais aussi partie de cette famille, donc je peux aussi y arriver. Alors certes, mon enfance n'a pas été quelque chose de très simple, de facile et tout ce qu'on veut, mais en attendant,
Je vais pas mentir, j'ai quand même été, j'ai eu une enfance aussi privilégiée sur certains volets, que ce soit d'un point de vue financier, parce qu'à un moment donné, ma grand-mère a quand même commencé à aider ma mère, et que ce soit aussi en termes de rencontres, de voyages, parce que je pouvais aller quand même assez régulièrement aux Açores, passer du temps avec certains de mes oncles, comme je le disais, qui, en fait, il y a beaucoup d'ingénieurs dans ma famille, donc voilà, je passais pas énormément de temps, mais quand je passais du temps avec eux, j'étais à côté de personnes qui m'éclairaient sur des raisonnements, des façons de réfléchir, des façons d'appréhender la vie. Mais ça peut impacter quelqu'un d'une manière assez forte. Mm-hmm. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir ça. Et ce n'est pas une chance que tout le monde a, donc j'en suis conscient. Et ça a contribué clairement à mon succès, si on peut appeler ça un succès. Mais, voilà.
Oui, je pense qu'on peut appeler ça un succès, bien sûr. Après, c'est le succès de chacun.
Exactement.
Tu vois, et chacun a sa notion aussi de son succès et de où il veut atteindre ses objectifs. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire que leur succès, ils ne l'ont toujours pas eu parce qu'ils ont des objectifs qui sont plus hauts que ce qu'ils sont maintenant. Et puis d'autres gens qui se disent, moi, je considère que j'ai un succès parce que je suis arrivée à mes objectifs. En fait, c'est hyper subjectif, le succès.
Totalement.
Dans la vie de tous les jours, quand tu étais enfant, est-ce que tu as ressenti beaucoup de racisme?
Alors, oui et non. Ah. Alors déjà, il y a une chose, et tu l'as dit, mon nom de famille et mon prénom. Ça passe.
Oui.
Hein, je veux dire, sur un même CV, dans mon métier, voilà, Abraham de Bettencourt, les gens se disent, OK, il doit y avoir un lien aristocratique, il a peut-être été adopté, peu importe. Mais donc, c'est quelqu'un qui a... d'un milieu social. Mm-hmm. Le prénom Abraham aussi est plus facile. Je dis ça parce que quand on s'appelle, je sais pas moi, Abdul Kachem, et qu'on veut rentrer dans certains secteurs d'activité, c'est un frein, c'est une difficulté et c'est une difficulté que je ne vais pas dire que je n'ai pas eue, mais que j'ai eu beaucoup moins que d'autres. Mm-hmm. Au niveau du métissage et du racisme, pour être très honnête, oui, j'ai rencontré quelques petites difficultés, j'ai déjà eu des remarques un peu désagréables, mais globalement, en tout cas pour ce qui est de mon expérience de ma vie en Belgique, j'ai trouvé les Belges extrêmement accueillants et bienveillants.
Ok.
Voilà. Je trouve qu'il y a souvent un peu ce côté toujours à se plaindre de dire que ouais, là, le racisme, machin et truc. Sincèrement, non. J'ai vu beaucoup. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai vu quand même énormément de gens qui étaient, bien intentionnés, bienveillants, disposés, généreux. Donc, ça, c'est une chose. Après, il y a un autre volet qui est le volet de la vie sociale. Et là. Il y a quelque chose chez les métis qui est assez difficile, c'est que il y a souvent la question de il faut choisir un camp.
Est-ce que tu es africain ou est-ce que tu es européen?
Est-ce que tu es avec les Africains? Est-ce que tu es avec les Européens? Et que de toute façon, que tu sois chez les uns ou chez les autres, tu ne seras jamais totalement l'un d'entre eux. Hein.
Oui.
Donc chez les Blancs, ok, Abraham, il est sympa, machin, etc. Mais bon, ça reste quand même un métis ou quelqu'un de couleur. Et inversement, et c'est pas méchant en fait, hein. D'ailleurs, il y a Noah Yuval Harari qui a expliqué très bien ça, en fait, l'affinité, la proximité qu'on va avoir avec les gens est liée à la proximité génétique qu'on a avec les individus. Et en fait, ça va au-delà des gens, ça va même jusqu'au vivant. Hein. Typiquement, si j'écrase une mouche devant toi, ça va pas te faire grand-chose. Par contre, si je prends une machine et que j'écrase un chien devant toi, ça va tout de suite te choquer beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que la proximité génétique est plus importante. Tu sais plus facilement t'identifier à un chien. Bref. Mais donc, voilà, il y a un petit isolement qui est lié à ce métissage. Qui peut parfois être accompagné aussi à de l'envie. Pour les gens qui sont africains, qui vont dire, OK, mais lui, c'est un blanc, c'est un bounty, hein, c'est un peu l'expression. voilà. Mais globalement, je dirais que c'est...
Toi, tu n'as pas eu un choc réellement de te dire, ouais, le métissage, comme tu dis, tu n'es jamais vraiment blanc, tu n'es jamais vraiment black, tu ne sais pas trop, tu vas être un peu au milieu de tout ça. Et tire ton plan, quoi. Bonne chance, la chance.
Moi, quand j'étais gamin, à la base, je traînais plutôt avec les Arabes, quand j'étais tout petit.
OK.
Les Arabes.
Les Maghrébins, quoi.
Les Maghrébins, voilà. Et puis alors, donc ça a été tout un temps. Mais les Maghrébins, pas tous, mais en tout cas certains, en tout cas en région, sur la communauté maghrébine belge, il y a quand même une distance avec les Africains, etc. Ils ne sont pas forcément toujours très bien considérés. Et bref, à un moment donné, j'ai changé.
Et alors là, j'ai commencé à traîner plutôt avec des potes qui étaient blacks. Alors là, c'était surtout des Congolais.
À quel moment t'as reconnecté avec l'Afrique? Est-ce que c'est, mais surtout, est-ce que c'est via ta famille? Mais comme tu
non,
dis,
c'est moi
via
qui, c'est moi qui ai cherché à retrouver. Parce que je savais que j'avais une sœur. Après, j'ai appris que j'en avais deux. J'en ai peut-être même plus. Mais je savais que j'avais une sœur. Et donc, c'est moi qui ai essayé de la retrouver.
OK.
Et donc, j'ai fini par la retrouver grâce à Facebook.
Facebook, franchement, ça a pu aider beaucoup de gens quand même.
Ouais, effectivement. Donc voilà, je l'ai retrouvée. Et puis, donc, j'étais au Sénégal pour la rencontrer.
T'avais quel âge?
J'avais 29, 30 ans.
Et ça, t'avais aucun lien? Je veux dire, tu ne connaissais pas vraiment ton parcours, à part ce que ta mère t'avait dit. Donc, toi, ta partie africaine, clairement, était un peu à découvrir.
Tout à fait, absolument, totalement. Enfin, je veux dire, j'avais traîné avec des copains africains.
T'as ressenti des similitudes peut-être dans... Tu sais, parfois, on se dit, c'est inné, parfois, des comportements, des attitudes, des manières de penser ou d'être, qui parfois peuvent naturellement, limite, être dans ton ADN. Est-ce que toi, quand t'es avec tes potes africains, est-ce que t'as senti cette connexion à l'Afrique, je veux dire, dans ta manière de parfois peut-être te comporter?
Je dirais bon, peut-être au niveau du sens du rythme. Voilà.
Ok.
Je veux dire, je veux pas du tout rentrer
dans
les...
T'es un bon danseur?
Ouais.
T'as fait de la danse?
Maintenant, pas de danse professionnelle, mais je veux dire, oui, quand je sortais en boîte, je dansais et je pense que je dansais pas mal. Pas en mode chorégraphie danseur pro, mais voilà.
Bouges, quoi.
Je bouge. Maintenant, j'ai problème avec mon genou, donc c'est plus compliqué, mais... Enfin, comparativement à des blancs, clairement, j'avais une facilité à la danse et à ressentir le rythme qui n'était pas la même que ce que j'ai pu voir chez d'autres blancs, on va dire ça comme ça. Mais quand j'étais gamin, bon, j'avais un pote, Stanley Ujeba, qui était un très bon pote, qui est lui, donc nigérien, et j'allais chez eux, je mangeais un peu la nourriture, machin, etc. Mais je ne peux pas dire que j'étais vraiment intégré et que j'ai vécu au sein d'une communauté africaine.
Mm-hmm. Parce que toi, quand tu arrives au Sénégal, tu sens que oui, qu'en fait, il y a une partie où « make sense » de fou. Ou pas spécialement?
Alors, la première chose que j'ai ressentie quand je suis arrivé au Sénégal, c'est « Waouh, il n'y a que des Noirs
!» Je n'ai jamais vu ça.
Ben, c'est vrai, parce que moi, il y a des moments où j'oublie que je suis de couleur. Hein. Je veux dire, j'ai tellement grandi dans un environnement blanc que j'en suis arrivé à parfois...
Te sentir blanc, en fait.
Ouais, enfin, intérieurement, je suis un bounty, voilà, c'est ça. C'est coloré à l'extérieur, mais très blanc à l'intérieur. Donc ça a été le premier sentiment. Bon, après... la première expérience au Sénégal était donc surtout pour rencontrer ma sœur et bon voilà, c'était, je suis resté dans les hôtels chez des amis à elle, enfin bon voilà, donc j'ai pas vraiment eu le côté
africain maison.
Afrique, voilà. Ouais. Par contre, la deuxième fois où j'y suis allé pour faire mes conférences, parce que j'ai fait un cycle de conférences là-bas dans des petites écoles, universités, écoles de commerce, machin. Et là, j'ai été beaucoup plus donc en contact avec la population et avec les gens, etc. Et j'ai notamment été au cimetière, là où est enterré mon père.
Okay.
Et là, effectivement, j'ai ressenti quelque chose intérieurement qui était assez fort.
Tu peux le décrire? Si c'est possible.
Le décrire...
En partie, de dire que quand tu ressens quelque chose de fort, c'est positif, c'est négatif, c'est une connexion, c'est une déconnexion. C'est quoi, en fait, que tu ressens?
C'est C'est comme si on était submergé d'un point de vue émotionnel sans pouvoir préciser si c'est de la joie, de la tristesse ou peu importe. Mais on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vibre d'une façon qui est tout autre, enfin qui n'est pas la norme, quoi. Donc il se passe quelque chose, le décrire c'est très difficile à dire, sensation de, oui, de, voilà, pour moi aussi c'était un moment de pouvoir me recueillir, faire le deuil de ce père que j'ai pas eu, et donc forcément c'était assez fort, quoi.
Je comprends. C'est un moment de reconnexion.
Ouais.
C'est un moment d'identité. Est-ce que tu as pu rencontrer des gens de ta famille qui ont pu aussi t'aider à peut-être avoir des images de qui était ton papa de...
Ben, écoute, pas énormément. Parce que le souci un peu avec les Sénégalais, c'est qu'ils sont très demandeurs financièrement. Okay. C'est, ah, salut, t'es mon cousin. Ah, c'était toi le tuyau en Belgique.
C'est toi l'aristocrate.
Ouais, machin. J'ai besoin d'argent. Quoi, ouais. Donc, c'est vraiment, mais c'est, ça va très vite. Hein. C'est, ça dure pas 3 minutes. Hein, ça. Ouais. Et donc, c'est très malaisant. Et donc, ça m'a amené finalement à ne pas avoir le souhait de cultiver particulièrement la relation avec eux. Voilà. Puis avec ma sœur, en fait, j'avais un peu d'impréhension aussi. Mais j'ai été un peu surpris parce que je me disais, bon, je ne savais pas très bien à quoi m'attendre quand j'ai été à la rencontre de ma sœur. Et en fait, elle ne connaissait pas mon père non plus. Et donc, en fait, elle était métisse donc de sa mère, elle était quarteronne, donc sa mère qui était moitié française, moitié sénégalaise. Et donc, sa mère, sa grand-mère française était infirmière, son grand-père sénégalais était notaire. Et donc, en fait, elle venait d'un milieu au Sénégal de gens extrêmement aisés. Okay. Et donc, elle avait fait ses études à Paris, etc. Donc, quand j'ai rencontré cette sœur-là, parce que j'ai appris après que j'en avais une autre, en fait, je n'ai pas du tout été dépaysé, voire même, j'ai su rentrer dans certaines propriétés qui étaient
assez folles.
Assez folles. Donc, elle était venue me chercher avec sa copine en Porsche Cayenne. Quoi. Donc, tu vois,
au Sénégal.
Au Sénégal. Donc,
ce n'est pas la Porsche Cayenne de Bruxelles, c'est la Porsche Cayenne au Sénégal.
Et donc voilà, donc aujourd'hui, je suis papa célibataire, j'ai mes deux filles et j'espère trouver l'amour et j'espère pouvoir offrir un cadre familial classique à mes enfants. J'ai fait quelques tentatives qui malheureusement n'ont pas fonctionné, mais comme je l'ai dit, je perds pas espoir. J'espère que je trouverai l'élu
de ton cœur et de ton avenir. Cœur,
ouais, exactement. Voilà.
Je reviens vraiment en arrière.
Oui.
Ce qui se passe après le foot.
Oui.
Gros craquage.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé et comment t'es passé au-dessus de ça?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je joue au football. Et tant que je joue au football, je suis un peu, comment dire, dans ma petite bulle football, entraînement, etc. Je fume une fois une petite cigarette pour faire
le gars de la street,
mais globalement, alimentation saine, fumer un peu, rien du tout, mais rien de spécial. À l'école, ça part complètement déjà en cacahuète, mais je me dis, je vais devenir joueur de foot, tout va bien aller. Et voilà, je me lève le matin, je vais courir, je veux jongler. Tout mon univers est football, quoi. Et au moment où je vais voir le docteur Clemens, qui est un spécialiste du genou, et que le gars me dit « Écoute, Abraham, le football, à niveau professionnel, tu veux ou tu oublies, ce ne sera pas possible. » Là, pour moi, c'est un gros effondrement. Parce qu'à l'époque, j'étais catholique chrétien. Je croyais en Dieu, j'avais fait ma communion, ma profession de foi. Je lisais même de temps en temps un peu la Bible, etc.
T'allais à l'église, etc.
L'église, un petit peu.
J'étais mais t'étais croyant chez toi, quoi.
Je pensais vraiment... Dieu, pour moi, était quelqu'un qui était là. Et là, c'est fini. Hein. Je dis, ah non. comment Dieu peut exister et me faire ça à moi alors que c'est toute ma vie? Mm-hmm. Donc, Dieu, pour moi, disparaît. Enfin, disparaît, c'est un grand mot, mais en tout cas, ma foi s'est arrêtée à ce moment-là. Et la foi catholique chrétienne, hein, après j'ai toujours une certaine foi. Mais... Et donc, je suis à l'époque à l'Athénée Royale Jules Bordet, près du centre-ville, près de Nanessens. Y avait eu le décret le décret Onkelins, donc qui faisait qu'il fallait un certain nombre d'élèves dans les écoles pour que les écoles soient maintenues. Et donc, c'était une école où il y avait vraiment une population très
mal quartier,
très,
quoi.
Ouais, très compliqué. Et donc, le football n'est plus possible. Je commence à traîner avec mes potes, à fumer des joints. J'étais déjà en décrochage scolaire. Fumer, te défoncer le crâne, à pas savoir comment tu t'appelles, à faire des conneries de gosses, de vol, de ceci, de cela, de traîner avec des gangs, des machins, à vouloir montrer qui a les plus gros biceps et à faire des bagarres à gauche, à droite pour se donner le sentiment d'exister. Un peu de trafic, de stupéfiants, d'abord à petite échelle, puis ça va crescendo, ça monte.
Et ça monte plutôt bien, parce que j'avais déjà une certaine fibre commerciale à l'époque.
Bah écoute, j'ai créé Abiz, personnellement, j'avais des très bons clients.
Voilà, et donc ça monte. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu montes à un certain niveau, il faut être capable de faire preuve d'une certaine violence aussi, toi-même.
Envers d'autres,
effectivement, parce qu'il y a il faut défendre ces territoires. Il y a des transactions pour des montants qui font que les gens en face de toi peuvent vouloir te la faire à l'envers.
C'est des gros montants, à ce moment-là ?
C'est des gros montants.
T'as quel âge ? C'est quoi, t'as 17-18 ans, non ?
Ouais, 17-18, 18, c'est vrai, c'est ça. Donc, tu vas à l'étranger, tu fais des trucs et tout, donc voilà.
On est dans l'import-export.
Voilà, c'est ça. Et voilà, et donc, et t'en arrives à devoir, si tu veux, utiliser des armes, machin, truc. Et à un moment donné, je me rends compte que ça atteint des niveaux où la tension devient trop importante pour moi. Et je me dis, je peux pas aller plus loin, quoi. Je peux pas aller plus loin et ça devient trop dangereux. Et si je veux que ça, comment dire, si je veux survivre, il faut que je fasse preuve, moi, d'une violence que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de tuer des gens. J'ai pas envie d'aller poignarder ou faire des choses comme ça. Ça me fait peur. Voilà. Et donc, à un moment donné, je dis, OK. Je fais un pas en arrière. J'ai fait un pas en arrière un petit peu forcé parce qu'il y a eu des problèmes avec la justice et autres qui sont venus à moi. Quand je prends cette claque, tout d'un coup, je dis OK, maintenant on ferme le rideau. Et donc tout d'un coup, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que football, c'est fini. L'école, j'avais arrêté mes cours à 18 ans. Alors j'étais parti à Charleroi, à la Garenne, parce que c'était dans ma logique de distribution.
Ah, c'était ta zone.
C'était une de mes zones. Mais okay. Donc j'étais parti là-bas que pour ça, hein, vraiment. Mais donc, bref, et là-bas aussi, j'avais eu des problèmes avec des gens, des familles locales, machin, un truc. C'était un peu parti aussi en cacahuète. Mais donc, l'école, c'est fini. Le football, c'est fini. Et mes projets de devenir le futur. Baron de la drogue de la Belgique, c'est fini. Et donc, il n'y a plus rien. Et je me retrouve à me dire que je suis... Parce que j'étais à l'époque, j'étais un mec, je faisais sport de combat, j'étais balèze, c'était Abraham, c'est machin, tu vois, on respecte le mec, machin, bazar.
Oui, t'avais même un statut à maintenir, presque.
Voilà, exactement. Et puis tout d'un coup, tu perds tout ça. Alors évidemment, quand tu as des produits à disposition, tout le monde t'appelle tout le temps, tout le monde vient chez toi. Quand tu sors en boîte, tu prends une table, il y a 20 personnes autour de toi qui te disent « t'es Abraham, t'es le meilleur, que je t'adore, que machin truc ». Et puis le lendemain, quand tout ça est fini, il n'y a plus personne au balcon, tu vois, c'est fini.
T'es face à toi-même en fait.
Ah ouais, t'es face à toi-même et alors t'as plein de gens qui t'ont vu de loin et qui te regardent monter et qui
se la fermaient un peu.
Ouais, non, mais qui sont même limite en jubilation.
Ah oui,
en te voyant,
oui, oui, dégringoler.
Dégringoler le bazar. Et puis toi, t'as la honte, quoi. Tu te dis, OK, voilà. Et puis t'as tes copains qui, eux, étaient encore à l'école, qui commencent à faire du droit, ingénieur, je sais pas quoi. Toi, t'es là, tu te dis, putain, j'ai quoi là ? Maintenant, je suis où ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc là, je suis rentré dans un bad total. Donc dépression violente avec tentative de suicide. Et alors, pour l'histoire, c'est quoi ? C'est que tentative de suicide et donc plusieurs, mais j'y arrive pas. Et la vérité, c'est quoi ? C'est que je n'ai pas eu les couilles de le faire. Tu vois ? J'ai pas eu les couilles de me suicider. Et donc, j'arrivais pas. Je me disais, le couteau, j'arrivais pas à me l'enfoncer dans la chair.
Médicament, t'as essayé ?
Non, j'ai pas essayé. Moi, j'ai essayé, c'est le couteau, la corde.
Ah oui, mais c'était vieux.
Voilà. Ouais. Mais je vais pas jusqu'au bout. Je me mets pas dans une situation où je sais que si je me jette, ça va y aller. Quoi. Je veux dire, j'ai peur de ça, de ma finitude, de mourir. Et donc voilà, donc à ce moment-là, marasme absolu, je suis là chez moi, je fume des joints, je joue sur les jeux Counter-Strike, machin, enfin comme un espèce de zombie, aller voir les copains, avoir un peu de cheat, machin, un truc, ok, voilà, donc à jouer au LAN, hein, je me rappelle encore. Et donc voilà, quoi, une vie de merde qui allait aller droit dans le mur. Je suis dans ce truc.
Et donc, je me rappelle, c'était tellement horrible, quoi. C'est-à-dire que donc, c'était boire des Gordon, hein, pour ceux qui connaissent les Gordon.
Ouais, c'est les trucs, gros.
Qui à 12 degrés, bière, t'en bois deux, t'es KO technique. Avec ça, tu fumes ton joint aussi pour te mettre à chaîne. En fait, tu défonces le crâne complet et tu deviens un déchet, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la direction, c'est en mode droit vers le mur, voilà. Et je suis là-dedans, donc pas les couilles de me suicider. Quand je me couche le soir, le lendemain, je dors plus que de besoin. Donc ça veut dire parfois 10 heures, parfois 12 heures. Non pas parce que j'ai sommeil, mais parce qu'en fait, au moment où je me lève, je n'ai pas envie de vivre. Je n'ai pas envie d'affronter cette réalité. Je veux rester dans mon sommeil pour ne pas avoir à l'affronter, quoi.
Pour oublier en fait ce que tu vis.
Voilà. Donc, okay. Et donc je suis là-dedans pendant des mois. Et donc toujours sans avoir les couilles de me suicider. Et un jour... Pourquoi ? J'en sais absolument rien. Mais un jour, tout d'un coup, je me dis, écoute, Abraham, t'as pas les couilles de te flinguer. Et donc, tu vas quand même pas vivre toute ta vie comme ça.
Oui, mais c'est ça.
Voilà, et c'est au moment où je me suis dit ça, je me suis dit, OK, bon, il faut remonter la pente, c'est pas possible. Donc ça, c'est un peu le moment, tu sais, comme quand
tu touches le fond.
Et là, je me suis dit, OK, je vais me relever. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher à me relever. J'ai demandé à ma mère pour pouvoir reprendre des études, pour faire un jury. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis de là, j'avais des copains à l'époque où je faisais encore toutes mes magouilles qui travaillaient dans l'immobilier, qui étaient des consommateurs aussi. Et donc, je me disais, ouais, ça a l'air sympa. Parce que moi, être derrière un bureau toute la journée, c'était no way. T'es un peu dedans, il gagnait du fric et tout. Je me dis, OK, machin, bon, agent immobilier. Pour être agent immobilier, il faut aller avoir son
CESS.
Voilà, exactement, ou un équivalent. Voilà. Et donc, j'ai fait... le lycée Molière pour pouvoir l'obtenir. Et puis après 2 ans, parce que j'ai pas réussi tout de suite, parce que j'étais tellement...
Bah, t'étais défoncé.
Ah ouais, ouais, je savais pas écrire une phrase. Voilà. Et puis voilà, petit à petit, je me suis reconstruit. Mais donc, pour revenir sur le football, fin du football, le dérapage qui a duré... J'irai un petit 2 ans, bien comme il faut. Et finalement, j'étais au bord du précipice. Et sincèrement, aujourd'hui, quand j'y repense, et en fait, j'ai des copains qui sont toujours qui sont là-bas. Il y en a certains qui ne sont pas revenus. J'en ai certains qui se sont fait tirer dessus, etc. Wow. Et je suis passé, en fait, vraiment... il me suffisait 1 millimètre de plus que pour passer de l'autre côté du bord. Et j'ai fait une sortie de route. Et grâce à je ne sais quoi, j'ai réussi à revenir sur le chemin. Et voilà, et donc me voilà.
Est-ce que tu penses que ta foi, qui n'était plus,
oui.
est-ce que tu penses qu'il y a quand même un lien avec ça quand même, est-ce que tu l'as pris aussi comme Dieu qui t'a fait vivre tout ça et qui à un moment donné, au-delà de toi évidemment, tes propres actions, mais je veux dire qu'il t'a, genre vis tout ça parce qu'il faut que tu vives autre chose, mais
tu dévis. Je le crois pas. Parce que d'abord, je sais que penser que tout ce qui nous arrive pour quelque chose, le fait d'avoir cette conviction est quelque chose qui, scientifiquement, c'est démontré, va être de nature à te permettre d'être plus heureux, plus optimiste et de réaliser de meilleures choses.
Oui.
Mais donc, c'est pratiquement de tu te convaincs toi-même
C'est ta propre motivation, voilà, c'est ton sens.
C'est un état d'esprit. Après... me concernant, pour revenir sur la question religieuse, mais bon, c'est un très long débat.
Oui, ça, on aura une autre fois.
C'est ça, mais c'est de dire, c'est que on est des insectes, en fait. Je veux dire, nous, les êtres humains, croire que derrière, il y a un Dieu qui veut nous envoyer à gauche, à droite, non. Je veux dire, c'est juste, on est là, on a notre vie, on a notre libre arbitre, on vit les choses. Je crois pas qu'il y ait... Enfin, il peut peut-être y avoir un grand architecte derrière tout ça, qu'on soit Dieu, Allah, peu importe quoi que ce soit, mais que lui veuille nous faire apprendre des choses ou machin, etc., j'y crois pas. Je crois qu'on est là, on doit vivre notre vie, on doit le faire du mieux qu'on peut, on doit essayer d'être le plus intègre, cohérent par rapport à ce qui est important pour nous. Et ma philosophie, en tout cas, c'est de me dire que je suis là, ça c'est une certitude. Qu'est-ce qui va se passer après ma mort ? Je n'en sais rien. Mais tant que je suis là, essaye de faire quelque chose que tu trouves beau. Voilà. Je vis ma vie, j'essaye de faire des choses
d'en faire quelque chose de beau, parce que finalement, la seule chose, et d'ailleurs c'est un chapitre de mon livre, ce qui compte, c'est l'instant présent. C'est la seule chose qui nous appartient, c'est le moment qu'on partage là maintenant, on le vit maintenant, ce qui se passera demain, ce qui se passe après, enfin, tout ce qui est autour. Finalement, c'est bien, mais la vérité, elle se passe maintenant.
N'hésitez pas, comme je le disais, je pense que là, vous avez été convaincus. En tout cas, si vous ne l'avez pas été, je ne comprends pas. D'acheter le livre « Vivez vos rêves » où tu donnes vraiment beaucoup de clés pour pouvoir, comme tu le dis si bien, exploiter ton potentiel et essayer d'aller vers un monde meilleur. Donc, « Vivez vos rêves ». Merci beaucoup. Et on se revoit, nous, très bientôt pour un hors-série. N'hésitez pas aussi à nous mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez peut-être une question, une remarque, quelque chose que vous avez envie qu'on mette peut-être plus en avant aussi. Et si vous avez des invités en tête, que vous avez envie aussi que j'interviewe. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt.